VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 15 mars 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Claire Morin-Gibourg.
Pour commencer, les titres.
En RDC, une cinquantaine de civils ont été tués dans des attaques menées par des rebelles ADF présumés en Ituri.
En Ouganda, l'écrivain Norman Tumuhimbise fait partie d'un groupe de 9 journalistes arrêtés pour communication offensante.
Au Burkina, la junte qui a renversé le président Roch Marc-Christian Kabore est à son tour confrontée à des attaques djihadistes meurtrières. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Également en seconde partie, Human Rights Watch dénonce une vague d'exécutions de civils et des pillages au Mali.
De fortes explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, une cinquantaine de civils ont été tués dans des attaques menées par des rebelles ADF présumés. Selon des sources locales, ces attaques des forces démocratiques alliées ont eu lieu dans plusieurs villages situés dans la chefferie de Walese Vonkutu dans la province de l'Ituri. Plus de détails avec Nanit Talani.
4 villages ont été attaqués par des rebelles ougandais de l'ADF qui ont tué 19 personnes dimanche dans le territoire d'Irumu, dans les villages carrières Apakulu, Apamayaya et Kimautu, a déclaré à l'AFP Christophe Munyanderu, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme en Ituri, une ONG locale. Monsieur Munyanderu ajoute que les villages Apende et Ndimo ont aussi été la cible d'attaque des ADF qui y ont tué 33 civils lundi. Il précise que le bilan d'au moins 52 civils tués entre dimanche et ce lundi pourrait s'alourdir. Il estime que si toutes les alertes de la population civile étaient prises en considération, ces ADF n'auraient pas tué autant de monde. L'Ituri et le Nord Kivu sont sous état de siège depuis mai dernier. Une opération militaire conjointe ougando-congolaise a été lancée fin novembre contre les rebelles ADF. Mais malgré ces mesures exceptionnelles, les massacres des civils ne s'arrêtent pas. En fin de semaine dernière, une trentaine de personnes ont été tuées du côté du Nord Kivu dans des attaques lancées par des présumés ADF.
Le Tchad a remis hier à la Cour pénale internationale Maxime Mokom, l'ex-chef d'un groupe armé anti-Balaka, suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en 2013 et 2014. La Chambre a trouvé des motifs raisonnables de croire que M. Mokom, un ressortissant de la République centrafricaine, était un coordonnateur national des opérations anti-Balaka, a indiqué la Cour.
En Ouganda, l'écrivain et militant des droits de l'homme, Norman Tumuhimbise, a été arrêté lundi par la police à Kampala. Il fait partie d'un groupe de 9 journalistes accusés de communication offensante. Mohamed Oumoufa nous en dit plus.
Norman Tumuhimbise, qui dirige un groupe de pression local appelé The Alternative Movement, devait lancer le 30 mars son livre intitulé « The Liars and Complices », qui signifie « les menteurs et leurs complices ». La police a reçu une plainte selon laquelle le groupe était impliqué dans des communications offensantes et dans la promotion des discours de haine, a déclaré le porte-parole de la police ougandaise, Fred Inanga. Ils sont avec la police à l'unité des enquêtes spéciales à Kireka, une banlieue de Kampala, alors que les enquêtes se poursuivent, a ajouté le porte-parole, sans donner davantage de précision. 3 femmes figurent parmi les personnes interpellées selon l'avocat. La nouvelle de l'arrestation du groupe a eu lieu un peu plus d'un mois après l'exil d'un autre auteur ougandais, Kakwenza Rukirabasheja. Ce dernier avait été arrêté le 28 décembre, puis inculpé de communication offensante envers le président Yoweri Museveni et son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, dans une série de tweets. Il y qualifiait notamment d'obèse et de rouspéteur, le général que beaucoup voient comme le successeur de son père.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes doivent continuer ce mardi alors que s'élargit l'opération russe à travers toute l'Ukraine. Au moins 3 fortes explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev, la capitale, par plusieurs journalistes de l'AFP, l'un d'eux ayant aperçu une colonne de fumée s'élever au loin. Les détonations sont parfois causées par les armes de défense antiaérienne. Aucune déclaration n'a été faite de source officielle dans l'immédiat.
Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev, ville presque entièrement encerclée par les forces russes qui ont envahi l'Ukraine le 24 février. Plus de la moitié des 3 millions d'habitants de Kiev ont quitté la ville depuis le début de l'offensive russe. Lundi, plusieurs morts et des blessés ont été signalés après des bombardements dans différents quartiers de la capitale. De violents combats opposent depuis plusieurs jours les forces russes et ukrainiennes à la périphérie nord-ouest de Kiev.
L'armée russe a accru son action sur le sol ukrainien, y compris dans des régions jusque-là épargnées. Et lundi, le Kremlin a évoqué la possibilité de prendre sous contrôle total les grandes villes qui sont déjà encerclées, ce qui impliquerait un assaut militaire majeur vu la farouche résistance ukrainienne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde hier contre cette guerre en Ukraine qui pourrait entraîner ce qu'il a appelé un ouragan de famine dans de nombreux pays. L'organisation vient de débloquer en urgence 40 millions de dollars pour venir en aide aux Ukrainiens les plus vulnérables. Rosine Munezero.
L'Ukraine est en feu et le pays est en train d'être décimé sous les yeux du monde. Nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a également souligné qu'en raison du blocage de production agricole en Ukraine et Russie, la guerre devrait dans ses répercussions frapper le plus durement les plus pauvres et semer les germes de l'instabilité politique et de troubles dans le monde entier. Et réclamant à nouveau un arrêt au plus vite des hostilités, M. Guterres a indiqué qu'au total, 45 pays africains et pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine et de Russie, et 18 de ces pays en importent au moins 50%. Alors que les besoins humanitaires augmentent rapidement en Ukraine, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires Martin Griffiths a annoncé débloquer 40 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies afin d'atteindre les personnes les plus vulnérables en Ukraine. Ces fonds sont, selon M. Griffiths, essentiels pour lancer immédiatement les opérations.
Une employée d'une station de télévision a interrompu hier soir le journal télévisé le plus regardé de Russie avec une pancarte critiquant l'offensive en Ukraine et sur laquelle on pouvait lire « Non à la guerre, ne croyez pas la propagande, on vous ment ici ». La femme a été arrêtée et amenée au commissariat.
À la suite d'une rencontre sino-américaine de plusieurs heures à haut niveau à Rome, les États-Unis ont jugé profondément préoccupante ce qu'ils ont appelé la position d'alignement de la Chine avec la Russie. La Chine a, pour sa part, accusé Washington de désinformation quant à son rôle dans le conflit, sans répondre spécifiquement aux informations du New York Times, selon lesquelles Moscou aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine.
La Chine a fait état mardi de 5280 cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, soit le décompte le plus élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020. La Chine, où le coronavirus a été dépisté pour la première fois fin 2019, était parvenue à très largement enrayer l'épidémie en recourant à de strictes mesures de confinement, mais la souche Omicron a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers dans l'ensemble du pays.
Depuis quelques jours, des dizaines de millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde sont placés en quarantaine à domicile, notamment dans la métropole technologique de Shenzhen aux portes de Hong Kong.
La Cour suprême de Grande-Bretagne rejette le recours du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre une décision autorisant son extradition vers les États-Unis. La justice américaine veut le juger pour une fuite massive de documents, Abdurrahman Dia.
Une porte-parole de la Cour suprême britannique a indiqué que le recours de Julian Assange ne soulevait aucun point de droit discutable. Le dossier va à présent revenir à la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a indiqué WikiLeaks sur Twitter. En janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur du fondateur de WikiLeaks. Invoquant un risque de suicide de Julian Assange, une juge avait refusé de donner son feu vert à l'extradition. Mais Washington avait remporté une victoire majeure en décembre lorsque la Haute Cour avait annulé cette décision, estimant que les États-Unis avaient fourni des assurances répondant aux inquiétudes de la juge. L'Australien de 50 ans est poursuivi par la justice américaine pour la diffusion à partir de 2010 de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Poursuivi notamment en vertu d'une législation contre l'espionnage, il risque 175 ans de prison. Ses soutiens dénoncent ce qu'ils considèrent comme une attaque contre la liberté de la presse.
La Minute Éco, Mohamed Humpa.
Au Nigeria, une explosion s'est produite sur un oléoduc exploité par le géant italien Eni dans l'état de Bayelsa, provoquant une réduction des exportations et un déversement de pétrole, a déclaré lundi sa filiale nigériane Naok. Cette société mixte a affirmé avoir réduit les exportations du terminal de Brass de 25 000 barils par jour. Selon l'entreprise, il s'agit de la deuxième explosion en quelques jours après un précédent incident survenu le 28 février dans sa station d'écoulement d'Obama qui a entraîné une baisse de production de 5 000 barils par jour. Le gouvernement marocain promet d'accorder un soutien financier aux travailleurs du secteur des transports en raison des coûts élevés du carburant. Le ministre du Transport et de l'Équipement, Mohamed Abdeljalil, l'a annoncé lundi, notant que les contours de ce soutien seront dévoilés prochainement. Le Maroc, qui dépend largement des importations d'énergie et de céréales, fait face depuis quelque temps à une hausse des prix des produits de première nécessité. Les prix du pétrole et du blé y ont bondi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les coûts de l'énergie et des métaux industriels dévissaient lundi et s'éloignaient de leur récent sommet dans la foulée de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie et du confinement du centre technologique chinois de Shenzhen. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a clôturé en forte baisse de 5,12% à $106,90, tandis que le West Texas Intermediate américain, avec échéance en avril, a lui reculé de 5,78% pour finir à $103,01.
Merci, Mohamedou. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La phase de poule de la conférence à Sahara de la Basketball Africa League prend fin ce soir à la Dakar Arena au Sénégal. Face aux Mozambicains de Ferroviário da Beira, Rwanda Energy Group tentera d'arracher sa quatrième victoire dans cette compétition, synonyme de première place de la conférence Sahara, devant les Tunisiens de l'Union Sportive Monastir qui l'a battu, 77-74. C'est la seule défaite des Tunisiens dans cette phase de poule. Choc aussi à suivre entre les Sénégalais du Dakar Université Club et les Marocains de l'Association Sportive Salé, qui se sont relancés après leur victoire hier 91-81 face à Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. À noter que sur les 6 clubs de cette conférence Sahara, seuls les 4 premiers se qualifieront pour la phase finale prévue fin mai à Kigali au Rwanda. En football, match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe. Le suspense reste entier avant le match à Old Trafford où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l'Atlético Madrid avec le score de 1-1 à l'aller. En cas de victoire de Man U, Cristiano Ronaldo, du haut de ses 37 ans, y gagnerait l'opportunité de disputer un 23e quart de finale de la Ligue des Champions en avril prochain, égalant le record que détient également Lionel Messi, éliminé avec le PSG. À Amsterdam, l'Ajax de l'Ivoirien Sébastien Haller accueille Benfica. Le score était de 2-2 à l'aller. En Espagne, grâce à son doublé contre Mallorca en Liga, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire, club et sélection confondus avec 413 réalisations, soit deux de plus que le précédent recordman Thierry Henry. Avec son triplé contre le Paris Saint-Germain mercredi dernier au Santiago Bernabéu, en huitième de finale retour de Ligue des Champions, 3-1, Benzema a dépassé Alfredo Di Stefano pour se hisser sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, avec désormais 311 buts sous le maillot blanc. En Angleterre, en manque de liquidité, Chelsea a demandé au gouvernement britannique d'autoriser la vente de billets malgré le gel de ses actifs à la suite des sanctions imposées au propriétaire russe Roman Abramovitch en vertu des restrictions prises en réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine. Chelsea ne peut plus vendre de billets à ses supporters non abonnés, ni aux supporters adverses qui se rendent à Stamford Bridge, ni aux supporters des Blues qui souhaitent voir leur équipe lorsqu'elle joue à l'extérieur. Le gouvernement a placé le club de Premier League sous une licence spéciale après avoir pris une batterie de mesures contre l'oligarque russe la semaine dernière.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, publie ce mardi un nouveau rapport sur les violations des droits humains au Mali. L'ONG parle d'une nouvelle vague d'exécutions de civils, notamment dans le centre du pays. Elle met en cause notamment les islamistes armés, mais aussi les forces armées gouvernementales dans ces exécutions sommaires dans le centre.
Bamako. Oui, on a documenté plusieurs incidents des exactions très sérieuses.
Oui, c'était Corinne Doufka. Donc, pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Bamako, dans le même temps, dans le rapport, rejette toute responsabilité de ses forces et souligne avoir ouvert des enquêtes sur plusieurs de ses allégations. Alors, au micro de Bagasikoura, la responsable pour le Sahel à Human Rights Watch, maintenant, Corinne Doufka.
Oui, on a documenté plusieurs incidents des exactions très sérieuses qui s'étaient commises pour le groupe islamiste armé et aussi par l'armée lorsque les opérations antiterroristes, surtout l'opération Keletugi qui était lancée dans le mois de décembre. Il y a plusieurs incidents, ils sont les allégations pour lesquelles on demande le gouvernement d'enquêter en profondeur et assurer la justice.
Vous mettez en cause les groupes armés islamistes, vous mettez en cause les forces armées nationales. Alors vous savez qu'on a beaucoup parlé des paramilitaires russes au Mali. Est-ce qu'on sait s'ils sont aussi impliqués?
C'est pas clair parce que plusieurs témoins ont parlé de la présence dans certains incidents des soldats blancs qui parlent pas français. Et on sait pour les médias, pour les autres, que les soldats russes, les entraîneurs, ou peut-être qui sont dans les opérations, mais ils ont parlé des trois incidents dans lesquels ils ont remarqué la présence des soldats blancs qui supposent qu'ils sont les soldats de Wagner russe.
Dans le rapport, vous dites qu'autour du 2 mars, des militaires se seraient livrés à des exécutions extrajudiciaires contre des suspects dans la région de Ségou. De quoi s'agit-il exactement?
Oui, ça c'est un incident très sérieux. Quand même, c'est le plus gros incident impliqué les forces de l'ordre qui ont été documentés depuis 2012. Apparemment, dans le mois de janvier et février, il y a une quarantaine ou cinquantaine de personnes qui étaient suspectes, qui étaient arrêtées dans la région de Ségou et amenées apparemment à le camp militaire de Diabeli. Là-bas, selon les témoins, à peu près 35 des personnes qui étaient détenues étaient mises dans le camion et amenées à peu près une dizaine de kilomètres et apparemment exécutées et après brûlées. On sait que les Nations Unies a déjà dit qu'ils sont en train d'enquêter cet incident aussi. Donc, c'est un incident très grave, si c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on demande une enquête en profondeur du gouvernement du Mali.
Des enquêtes en profondeur. Que vous a dit le gouvernement?
Oui, on a envoyé une lettre au gouvernement. On a donné à peu près une semaine de répondre à les allégations qu'on avait mises. Ils ont envoyé une lettre très détaillée par rapport aux enquêtes qu'ils ont déjà ouvertes. Ils ont déjà ouvert deux enquêtes à l'incident des tonneaux et un autre incident. Et ils ont aussi dit qu'ils sont en train d'enquêter l'incident du Diabali et les autres sur lesquels on a fait mention.
Corinne Doufka, responsable pour le Sahel à Human Rights Watch. Au Burkina Faso, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, a lancé hier dans un décret un ordre de mobilisation des anciens militaires. Selon lui, c'est pour les besoins de la nation. La situation sécuritaire continue de se dégrader dans le pays où des civils et des militaires sont tués dans des attaques ou embuscades. Des réactions recueillies par notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le décret est signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Il lance un ordre de mobilisation des anciens militaires au titre de la réserve pendant la période allant du 10 au 18 mars, selon le décret rendu public hier lundi. La mobilisation qui concerne les militaires des catégories sous-officiers et militaires du rang, admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021, est lancée pour les besoins de la nation. Peut-on lire dans le décret une décision saluée par les populations. Bassir Da est étudiant.
C'est une très bonne mesure en ce sens que ces militaires-là viendront renforcer les rangs. Ça peut quand même faire reculer l'ennemi. Ça fait partie des décisions que je trouve quand même salutaires. Voilà, parce que ça va vraiment galvaniser encore les troupes. Ils vont vraiment faire bénéficier l'expérience acquise avant la retraite.
Isaac Ilboudo, un travailleur du privé.
C'est une bonne chose, d'autant plus que on se rend compte vraiment que notre pays est en difficulté, nous avons des problèmes vraiment, et que l'armée actuellement a besoin d'effectifs. C'est très important donc de faire appel à ces personnes-là qui ont déjà de l'expérience certainement, parce qu'ils étaient là dans les rangs, ils ont combattu certainement d'autres dans d'autres conflits à l'extérieur, dans d'autres pays, et aujourd'hui s'ils sont à la retraite et qu'ils sont en mesure de revenir avec leur force, avec leur expérience pour partager avec les jeunes.
Les analystes et autres observateurs ne pensent pas le contraire. Siaka Koulibaly, analyste politique.
Cette décision des nouvelles autorités vise un certain niveau. Ce n'est certainement pas les soldats retraités qui sont peut-être nécessaires, étant donné que cette catégorie, quand elle arrive à la retraite, il est difficile de la faire mener certaines opérations. Mais au niveau sous-officier et au niveau sous-officier, la contribution de cette catégorie est toujours des valeurs. Je pense que le rappel des retraités va surtout porter sur cette catégorie. C'est vrai que ça n'a pas souvent été réalisé au Burkina Faso, mais la nécessité de leur exige cela. Et je pense que c'est une mesure qu'il faut noter. Je dirais même qu'il y a des potentiels qui existent dans notre code qui encadre la défense. D'autres possibilités qui ne sont pas encore utilisées, c'est par exemple la question des réservistes qui est prévue mais qui n'est pas mise en œuvre jusqu'à présent, qui aurait dû être faite en temps de paix et dont les personnels auraient pu être mobilisés maintenant.
Les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers jours au Burkina. 13 gendarmes ont été tués et 5 autres blessés dimanche dans une embuscade sur l'axe Kaya-Dori. Bien avant cela, l'attaque d'un car de transport sur le même axe Kaya-Dori a fait 2 morts et 16 blessés. 7 personnes ont été tuées, dont 4 supplétifs de l'armée et 3 civils, hier lundi, dans une attaque à Arbinda dans le Sahel, selon plusieurs sources locales. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le début des pourparlers à Doha entre le pouvoir tchadien et le nombreux groupes rebelles. Des discussions déjà suspendues mais jugées cruciales avant le dialogue national prévu à partir du 10 mai. N'Djamena souhaite la participation des groupes armés et des formations politiques à ce dialogue qui pourrait aboutir à un calendrier électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir et les groupes armés pourront-ils s'entendre à Doha? Qu'en est-il du processus de retour à un pouvoir civil? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Sénégal, l'armée a lancé une opération contre les rebelles de Casamance, moins de 2 mois après la mort de 4 de ses soldats. Le mois dernier, 7 militaires capturés par des éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance avaient été libérés grâce à une médiation de l'organisation catholique italienne San Egidio. Pour un point sur ce conflit de 40 ans, Abdourahmane Dia a joint à Ziguinchor Ndeye-Marie Diédoutiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance.
une surprise, pas tout à fait, parce que on s'y attendait tout de même. On s'attendait à ce regain de violence, ce qui a fait que ces derniers temps, nous avons fait un plaidoyer pour que les deux parties en conflit, c'est-à-dire l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, se mettent autour d'une table pour négocier. Cette période d'accalmie est la période la meilleure. Cependant, cette accalmie, c'est la période favorable pour aller vers des négociations.
Vous décrivez un peu une situation assez difficile pour les, disons, pour les populations civiles qui sont les premières victimes de cette instabilité dans une bonne partie, enfin une certaine partie de la Casamance. Que vous disent ces populations quand elles fuient les zones où se déroulent ces combats?
Les dernières enquêtes que nous avions menées, les dernières informations que nous avions eues lors des événements qui sont passés, c'est que les populations sont parties avec rien. Elles sont allées vers des familles d'accueil. Et ces familles d'accueil sont dans des situations d'extrême pauvreté. Donc c'est partout pareil. Et les populations veulent la paix. Les populations veulent être tranquilles. C'est ça le cri de cœur des populations. Elles veulent être chez elles. Elles veulent vivre en paix. Et donc, nous restons et nous croyons fermement que la seule solution, ce sont les négociations, c'est le dialogue pour retrouver la paix et la tranquillité pour ces populations.
On avait quand même constaté une période d'accalmie ces dernières années. Pourquoi ce conflit persiste-t-il alors que beaucoup d'activités avaient commencé à reprendre, d'après certains, même dans les zones les plus reculées de la Casamance?
En effet, les populations commençaient à retourner dans leur terroir. Les activités ont repris. Les populations ont commandé des enseignements, sont retournés dans certains que l'on croyait ne plus être accessibles. Donc ce regain de violence-là nous retourne encore à des années en arrière. Les populations vivent avec la peur dans le ventre et ça ne peut pas continuer. Il est temps qu'on prenne ce problème à part pour et négocier. Le processus de paix va en prendre un coup, c'est certain. Le processus va en prendre un coup. Si on a gagné cette accalmie-là, si on a pu obtenir cette accalmie pendant toutes ces années-là, c'est que les organisations de la société civile sont encore sur le terrain et encore en train de faire un travail de sensibilisation, et particulièrement les organisations de femmes. Donc il est temps qu'on arrive à des négociations avec l'implication de toutes les parties, de toutes les franges du MEPC, mais également avec les organisations de la société civile.
Ney-Marie Diédou-Tcham, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, jointe à Jiguinchor dans le sud du Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Nations Unies estiment que des dizaines de millions d'Ukrainiens à l'intérieur de leur pays et environ 4 millions de réfugiés auront besoin d'aide dans les mois à venir. Les habitants de New York, ici aux États-Unis, se sont donc mobilisés pour leur venir en aide. Un reportage de Nina Wishneva, relaté par Thierry Kaoré.
Pour la deuxième semaine consécutive, l'appartement de Daniela Matiko est ouvert aux bénévoles. Depuis le début du projet, elle a collecté quelques articles essentiels pour les habitants de l'Ukraine.
Quand nous avons commencé à faire ça, nous pensions que ce seraient mes amis, les amis de ma mère, les amis des amis tout au plus. Nous pensions que nous aurions une poignée de boîtes, mais regardez ça.
Maintenant, le premier étage de son immeuble est pratiquement un entrepôt. Sa mère, Marina, est une professionnelle de la santé qui a publié des informations sur les réseaux sociaux sur le besoin d'aide humanitaire et autres en Ukraine. Les gens ont immédiatement commencé à offrir leur aide.
Il n'y a pas que les Ukrainiens qui nous aident. Il y a des Russes, des Biélorusses, des Turcs, toutes les nationalités. Nous allions gagner, les gars.
Les articles comprennent des appareils de vision nocturne et des générateurs, des garrots pour arrêter les saignements, des bottes spécialisées et des sacs de couchage. Les soldats ukrainiens eux-mêmes ont fourni des informations sur ce dont ils avaient le plus besoin. Certains volontaires new-yorkais envisagent même de se rendre en Ukraine et d'y rejoindre les unités de défense territoriale. Des immigrés russes comme Igor font également partie des volontaires. Pour eux, la guerre en Ukraine est tout à fait incroyable et douloureuse.
Nous restons en contact avec ceux qui sont en Ukraine et nous essayons de convaincre leurs proches en Russie. Malheureusement, c'est en vain.
Les volontaires américains travaillent sur de nouvelles façons d'envoyer les fournitures car l'assaut continu de la Russie contre l'Ukraine rend les livraisons difficiles et dangereuses.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Claire Morin-Gibourg, Michel Joseph à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.